Tout le gratin économique et politique se retrouve donc cette semaine dans la station de ski de Davos, en Suisse, pour le Forum économique. Gabriela Butcher, la directrice générale d'Oxfam, a été invitée. Nul doute qu'elle évoquera sans doute le dernier rapport de l'organisation. Il sort ce matin. Selon ce rapport, 1% des plus riches de la planète, 1% ont capté 2/3 des richesses du monde depuis la crise du Covid. Bonjour Julien Desiderio.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la justice fiscale chez Oxfam. La crise du Covid n'a donc pas affaibli la fortune des plus riches ?
Non, aujourd'hui on voit que vraiment la concentration des richesses au sommet, donc la fortune des milliardaires, a plus que doublé ces 10 dernières années. On a 81 milliardaires qui possèdent plus de richesses aujourd'hui que la moitié de la planète. Donc on va vraiment dans une tendance à l'augmentation extrême de la concentration des richesses.
80 milliardaires donc, qui possèdent donc plus de 2/3 des richesses de la planète. On le trouve où ces milliardaires ? Dans des secteurs de l'alimentation et de l'énergie principalement ?
Dans le secteur de l'alimentation, dans le secteur de l'énergie, mais aussi dans le secteur des nouvelles technologies. Par exemple, les CEO des GAFAM font partie des plus grands milliardaires, mais aussi dans le secteur du luxe, évidemment, ce qui est aussi peut-être un indice qu'aujourd'hui, les crises n'impactent pas tout le monde de la même manière.
Car depuis 25 ans aussi, selon votre rapport, les extrêmes ont augmenté, donc les riches sont plus riches, mais les pauvres plus pauvres.
Oui, pour la première fois depuis 25 ans, l'extrême richesse et l'extrême pauvreté ont augmenté simultanément. Nous, on analyse ça comme le résultat de dizaines et de dizaines d'années de politique via des baisses d'impôts pour les plus riches, pour les multinationales, via plus d'austérité, via plus de pression sur les services publics, qui sont les mécanismes qui servent à limiter ou en tout cas réduire les inégalités.
Et le système, alors, crée des crises et finalement, il y en a qui profitent de ces crises, c'est ça ?
Oui, on constate que aujourd'hui, donc il y a cette concentration qui est à l'œuvre. Donc on a des entreprises qui sont multinationales, qui sont de plus en plus fortes, qui sont de plus en plus monopolistiques. Et par exemple, dans le cadre de la crise de l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, on constate que le marché dans certains secteurs est si peu concurrentiel que les entreprises sont capables de conserver leurs marges et que les marges alimente l'inflation. Aujourd'hui, il y a des surprofits qui sont générés par, notamment, vous l'avez évoqué, le secteur de l'agroalimentaire et le secteur de l'énergie. On taxe aujourd'hui le secteur de l'énergie en Europe, mais on oublie toute une série d'autres secteurs où les gens payent finalement, via le coût de la vie qui augmente, les gens payent ces surprofits qui sont ensuite, non pas redistribués sous forme d'imposition, mais reversés sous forme de dividendes aux actionnaires.
Et donc, ça oblige alors l'État, finalement, de venir en aide et justement de trouver des solutions pour sortir de cette crise, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On constate que depuis 2020, on est confronté à une multiplication de crises qui rendent la majorité des gens plus pauvres à travers le monde. Et le seul filet de sécurité qui intervient à l'heure actuelle, c'est l'État. Donc, durant la crise du Covid, on a appelé l'État à la rescousse. Durant la crise de l'énergie, la crise du coût de la vie, c'est l'État qu'on appelle à intervenir. Dans le cadre de la crise climatique, c'est aussi l'État qu'on somme de prendre des initiatives.
Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut taxer davantage donc ces grosses fortunes, ces plus riches. Il faudrait donc, selon vous, imposer donc un impôt sur la fortune et ça rapporterait 1 580 milliards ?
Oui, au niveau mondial, bien entendu. C'est pas uniquement l'appel d'Oxfam. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la théorie du ruissellement, qui est l'héritage du néolibéralisme des années 80, a fait son temps, que les baisses d'impôts consécutives n'ont pas généré l'activité et la croissance souhaitées. Et il y a des institutions qui étaient très orthodoxes sur cette théorie du ruissellement qui commencent maintenant à faire marche arrière. Donc, par exemple, le FMI estime qu'aujourd'hui, les inégalités sont tellement importantes qu'elles sont mauvaises pour la croissance économique et qu'il faut arrêter ces baisses d'impôts sur les plus riches. On voit aussi, par exemple, des millionnaire aujourd'hui à Davos qui appelle à seconder les taxes plus justement. Il y a aussi des milliardaires, des personnalités comme Bill Gates disent on devrait payer plus d'impôts.
Et également, donc il y a un consensus qui commence un petit peu à émerger alors.
Véritablement un consensus et si on regarde par exemple du côté de la Belgique, 74% des Belges sont favorables à un impôt sur la fortune. Donc la position radicale, elle est de plus en plus dans le chef de ceux qui refusent d'entendre qu'aujourd'hui ceux qui ont les épaules les plus larges doivent contribuer plus parce qu'on a besoin de financement pour répondre aux crises, pour la transition climatique, pour financer les services publics.
On évoque justement la Belgique. 1% des personnes, là aussi, 1% des personnes les plus riches possèdent un quart des richesses du pays.
Oui, un quart des richesses du pays et c'est plus que 70% de la population combinée. Donc aujourd'hui, on a les 1% les plus riches en Belgique qui possèdent plus que 70% de la population ensemble. Ça s'explique par un système fiscal qui est injuste. En Belgique, on est fortement taxé sur le travail, mais très peu sur le capital. Or, les revenus de capital et le capital en lui-même est principalement détenu par les plus riches dans ce pays. Si on regarde, par exemple, les 10 milliardaires les plus riches de Belgique, ce sont pas des gens qui ont bâti leur fortune sur le travail. On ne devient pas milliardaire ou multimilliardaire à la sueur de son front, mais parce que il y a un système économique et surtout fiscal qui est bâti à leur avantage.
Oui, d'ailleurs, dans le rapport, vous donnez cet exemple. Elon Musk, l'un des hommes les plus riches du monde, a été soumis à un taux d'imposition de 3% en 2014 et 2018. A contrario, et l'exemple est parlant, Haber Christine, qui est une vendeuse de farine en Ouganda, elle gagne 80 dollars par mois, et pourtant son taux d'imposition est de 40%. Donc vous notez bien là, évidemment, une injustice au niveau de la taxation. Mais revenons justement peut-être à la situation d'aujourd'hui. Est-ce que la mondialisation, qui est un peu évidemment au cœur de cette réunion de Davos, de ce forum économique, est-ce que la mondialisation a finalement encore un avenir? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste plutôt à un repli sur soi, à des politiques plutôt qui essayent de ne plus se mondialiser, de se tourner vers l'extérieur.
En tout cas, je pense que maintenant, ce qui doit se mondialiser, c'est aussi tout ce qui concerne les régulations. Donc le libre marché à tout va, ça suffit, ça engendre des crises, ça crée des inégalités et ça engendre de la concurrence entre les États. Donc un des principaux symptômes très négatifs de la mondialisation, ça a été la multiplication des paradis fiscaux. Et dans les différents scandales qu'on a connus ces dernières années, que ce soit les Swiss Leaks, les Lux Leaks, les Panama Papers, on a systématiquement retrouvé les personnalités les plus riches du monde, et notamment certaines qui se trouvent en Belgique. Donc aujourd'hui, on a besoin de réguler la mondialisation, parce qu'on a besoin aussi de solutions qui sont collectives. Donc par exemple, un impôt minimum mondial sur les multinationales, comme il a été discuté, c'est une bonne initiative, même si cet impôt est vraiment trop faible et ça reste insuffisant. Mais pour lutter aujourd'hui contre tous les paradis fiscaux et tous les systèmes qui permettent aux plus puissants d'éviter de payer des impôts, on a besoin de plus d'action dans ce sens-là.
Oui, et c'est vrai qu'il y a aussi une prise de conscience à ce niveau-là, puisqu'on demandait aussi une action plus coordonnée au début de ce forum donc économique qui débute aujourd'hui à Davos. Merci Julien Desiderio d'avoir été notre invité en direct. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la justice fiscale chez Oxfam.